Aujourd'hui, je te parle de la tendance qu'ont certains parents et éducateurs de vouloir éviter à tout prix aux enfants de ressentir leurs émotions vulnérables comme la tristesse et la colère et l'impact que ça a sur leur développement et leur résilience. Je suis Élisabeth Dufresne et bienvenue à Les Émergents. De vous retrouver. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, bien, vous savez que la saison achève bientôt, hein, avec une petite pause durant le temps des vacances. Et pour être honnête, j'en ai bien besoin. Ça a été une année très émotive, remplie d'épreuves, de deuil. J'ai vraiment besoin de me régénérer, de prendre du temps en nature, avec ma communauté, mes amis, de créer. J'ai vraiment cette envie-là et cet élan-là de me remettre les mains dans l'artisanat puis de faire des affaires avec mes mains, avec ma poésie. Donc, ça m'emballe beaucoup. Et j'ai envie de dire que ce serait un moment pour moi de prendre soin d'une autre partie de mon être, pour vous revenir plus régénéré, je l'espère, en septembre prochain. J'espère que de votre côté, ben, votre ménage du printemps intérieur et extérieur se passe comme vous le voulez, ou du moins de la façon dont ça doit se passer pour vous en ce moment, pour que vous puissiez germer et pousser, hein, sous le soleil de l'été 2024. Moi, j'ai vraiment envie de partager ma joie avec vous concernant une nouveauté printanière pour moi. Et c'est qu'en fait, j'ai décidé de me lancer et je vais accompagner ma toute première famille avec l'approche Newfeld et les autres magnifiques outils que j'ai pu accumuler là, à travers le temps. Et ça fait très longtemps que je ressens l'élan, l'appel d'accompagner des familles. Mais j'avais un énorme sentiment d'imposteur parce que j'ai pas de famille moi-même, tu sais, puis je pense que c'est absolument légitime de ressentir une réticence à cet endroit-là. En même temps, il y a comme plein de gens autour de moi qui savent très bien que j'ai pas d'enfants puis qui continuent de me poser une tonne de questions chaque semaine sur mon avis, sur des situations qui ont attrait avec leurs enfants. Puis je me dis qu'il existe déjà une tonne de ressources pour les familles, de coachs parentales. Alors, je pense vraiment que les gens ont le choix, puis que si c'est quelque chose qui les arrête, ben ils pourront le faire sans problème. Puis ceux qui choisissent de travailler avec moi, ben c'est que ça ne leur importe pas vraiment, puis qu'à travers le balado, ils ont saisi qu'il y avait des choses justement que j'étais capable de percevoir puis, ou d'appliquer aussi dans ma communauté. Puis tu sais, je réalise en fait que jamais je prétendrais comprendre pleinement ce que c'est que d'être parent tant que je ne l'aurais pas vécu moi-même. En même temps, je pense qu'en chaque parent, il y a une éducatrice et ça, je le suis depuis plusieurs années. J'ai aussi été nounou, donc j'ai bâti des relations significatives avec une tonne d'enfants dans différents contextes. Puis j'ai vraiment eu la chance d'en voir beaucoup et de donc réussir à dresser une espèce de portrait puis à saisir les besoins qui les unit, tous ces beaux enfants-là. Donc, avec humilité, c'est important, je pense avoir une perspective à joindre à votre expérience de parent et d'éducateur, bien entendu, qui puisse aider à cheminer là, en tant que famille. Et justement, ben, y a une famille qui a répondu oui à l'appel, qui me fait confiance, puis je suis vraiment touchée et emballée de ça. Et depuis que je suis jeune, je sens que j'ai comme cette capacité-là à connecter à une personne, à saisir son essence, puis à lui partager des réflexions, des feedbacks, des questions et parfois même des conseils. Bref, j'ai hâte de vous en reparler. Si l'expérience est positive pour cette famille-là, puis pour moi-même, puis que je ressens dans tout mon être que c'est vraiment ça, je vais ouvrir le service probablement à l'automne prochain. Puis tiens, Si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, laisse-le-moi donc savoir dans un petit DM ou par courriel. Ça m'aiderait à clarifier si c'est réciproque, cette envie-là, ce désir-là. Alors aujourd'hui, j'avais envie de revenir à un épisode solo dans lequel je drop du knowledge, comme j'aime le dire, dans le sens où c'est un épisode dans lequel je vais vraiment livrer de la matière. Et ce sont des épisodes que j'adore faire, qui prennent du temps, plus d'énergie, mais je suis toujours bien excitée de ça. Et merci d'ailleurs à toutes celles et celui qui m'ont envoyé des messages vocaux. J'en ai eu vraiment beaucoup. Je n'ai donc pas pu tous les mettre ou les mettre dans leur intégralité, en tout cas pour des raisons de temps. Mais sachez qu'ils m'ont vraiment tous aidé à amener ma réflexion plus loin puis à apporter des nuances. Je vois souvent des parents autour de moi qui essayent de tout leur cœur d'être bienveillants envers leurs enfants. Puis ça, ben, on aime ça. Mais parfois, à force de vouloir être aussi bienveillant, je vois certains adultes tomber dans ce que moi, en tout cas, je pourrais percevoir comme un piège. Et c'est de ce piège potentiel-là dont j'ai envie de vous parler pour commencer aujourd'hui. Si vous avez écouté l'épisode numéro 1, bien vous savez que j'ai été longtemps dans le paradigme où je pensais qu'on devait le plus possible laisser l'espace aux enfants afin qu'ils puissent choisir à peu près tout pour eux-mêmes. Puis, si je décortique un peu ce ressenti-là de l'époque, en dessous de ça, il y avait vraiment l'idée de fuir toutes les frustrations possibles que l'enfant allait rencontrer. Je m'explique un peu. Je pense qu'au départ, j'avais la perception que les enfants vivaient tellement de frustrations déjà dans leur vie, étant donné que les adultes choisissent tout pour eux. Je voulais être un adulte, moi, qui allait enfin leur foutre un peu la paix. Puis je pense encore que c'est vraiment légitime, puis d'une certaine façon, je le feel encore. Sauf qu'aujourd'hui, pour moi, leur foutre la paix ne veut plus du tout dire la même chose. Avant, je me disais que de m'adapter le plus possible à l'enfant pour lui éviter toutes sortes de frustrations, c'était du respect. Que de absolument tout faire pour que l'enfant vive que des émotions positives ou confortables, bien, c'était ça, de l'amour. Et c'est que, comme je percevais l'enfant comme une victime d'un système oppressif, j'en venais à vouloir le ménager pour contrebalancer tout ce qu'il devait subir à l'école, par exemple. Donc, si je donnais une directive, et ça c'est quand j'osais en donner une, si elle frustrait l'enfant, je me disais que c'était signe que ma directive était sûrement injuste, puis qu'elle lui causait du tort, puis que je devais donc la changer. Puis vous l'aurez compris, là, j'évitais aussi de dire non à l'enfant le plus souvent possible, quitte à trouver toutes sortes d'idées puis de compromis pour leur éviter et m'éviter à moi-même par ricochet de ressentir les émotions inconfortables associées au non. C'est-tu plate un non pareil? Puis si je vais même plus loin, même dans les situations totalement naturelles de la vie, lorsqu'un enfant était triste ou en colère, qui avait peur à mes côtés, j'entrais souvent vite en mode solution, comme pour leur éviter de ressentir ces émotions-là. Puis c'était très inconscient, là, mais je réalise aujourd'hui que j'avais vraiment la croyance que c'était comme mauvais pour la santé de vivre des émotions fortes comme ça, puis que mon rôle en tant qu'adulte, c'était vraiment d'éviter ça.
Dernièrement, je lisais un article justement à ce propos-là, puis précisément sur les parents hélicoptères au niveau émotionnel. Je me suis vraiment reconnue dans cette article-là, dans l'idée que, effectivement, j'ai l'impression que je veux peut-être trop préserver mes enfants des émotions négatives, alors que je leur laisse toute la liberté d'explorer dans leur corps, dans les limites de leur mobilité, puis que c'est comme si la confiance, c'est pas la même au niveau émotionnel.
Il m'arrive de faire en sorte de diminuer les émotions négatives de ma fille, malgré que je sais que ce n'est pas la bonne chose à faire, parce que je sens que moi, mon système nerveux est à bout, puis que je serais peut-être pas capable de l'accompagner à mon meilleur cette fois-là, et de tricher, puis d'y éviter.
Si vous vous reconnaissez un tant soit peu dans ce que je viens de décrire là, dans les dernières minutes, ben, je me relie vraiment à vous. Puis j'espère que vous ne percevrez pas cet épisode-là comme un jugement, mais plutôt comme un désir de vous partager, un peu comme une amie, ma nouvelle perception. Puis je trouve que c'était tellement précieux de comprendre les différentes nuances que je m'apprête à vous partager là, que j'aimerais vraiment ça, vous en faire cadeau à mon tour. Parfois, c'est difficile de mettre des mots justes pour exprimer ce qu'on espère voir émerger chez les enfants qu'on va accompagner. Je parle là, tu sais, de des signes tangibles que notre travail éducatif porte ses fruits puis qu'on fait une bonne job. Puis pour moi, ben, il est évident que la résilience d'un enfant, c'est vraiment un éducateur clé de son développement global. Fait que, en tant que permacultrice de l'enfance, parce que oui, j'aime vraiment ça m'amuser à me définir comme ça, la résilience, c'est un concept fort qui m'intéresse particulièrement. Et la résilience, c'est un concept clé de la permaculture parce qu'elle va permettre de créer des systèmes agricoles et des modes de vie qui sont à la fois durables, adaptatifs et résistants aux perturbations environnementales et sociales. Fait qu'en cultivant la résilience, ben le permaculteur il peut contribuer à la création d'un avenir plus durable, plus équilibré pour les générations présentes et futures. Alors si on ramène ça à l'humain, puis particulièrement aux enfants, ben ce qu'on souhaite, c'est que l'enfant, peu importe ce qu'il va traverser, qu'il soit en mesure de s'adapter à la situation. Surtout dans le monde d'aujourd'hui où tout va vraiment vite et il y a tellement de changements, on va se dire là, aussi de plus en plus de perturbations. Puis bien sûr, on ne veut pas seulement que l'enfant se contente de s'adapter en permanence. On aspire aussi à ce qu'il devienne un individu fort, capable d'influencer son environnement. Mais ça, c'est le sujet d'un autre épisode, OK? Là, on va se concentrer sur l'adaptabilité. Et comme le souligne Gordon Neufeld, mon mentor de tous les jours, de qui cet épisode-là a été grandement inspiré, la résilience, elle va consister à être transformée parce qu'on ne peut pas changer soi-même. Et heureusement, bien, la nature, dans toute sa splendeur, elle nous a pourvus d'une capacité intrinsèque absolument extraordinaire à apprendre des défis qu'on va rencontrer, à nous y adapter et à en ressortir plus fort. Et je parle ici des émotions. L'adaptation pour l'humain, c'est un processus profondément émotionnel. Les émotions vont nous permettre d'absorber les épreuves de notre chemin puis d'intégrer les défis rencontrés pour en tirer des leçons. Et ça va nous permettre de nous mobiliser hein, pour retrouver notre équilibre perdu et donc devenir plus résilient.
On ne devrait pas réduire les émotions vulnérables aux enfants parce que ça les prépare émotivement à réagir aux émotions vulnérables quand ils vont être adolescents ou même adultes. Et je crois qu'on ne devrait pas les empêcher de vivre ces émotions-là. Autant la frustration, la colère que même la tristesse. Je pense pas que c'est à nous, en tant que parents, de faire des efforts pour que ces émotions-là soient moins vécues.
Mais ce serait quoi, par exemple, les signes qu'un enfant a de la difficulté avec son processus d'adaptation? On dirait que c'est tellement vague. Je vous donne 3 signes rapidement comme ça, bien que c'est un sujet un peu plus complexe. La première chose qu'on peut regarder, c'est est-ce que l'enfant que j'accompagne est capable d'accepter les limites, les restrictions, les non? Ou c'est toujours un calvaire ce moment-là, il y a de la négociation infinie et que ça finit généralement en crise. Un deuxième signe que l'enfant a peut-être des défis avec ses capacités adaptatives, c'est que l'enfant ne semble pas vraiment apprendre de ses erreurs. Il ne semble pas vraiment tirer profit de ce qui lui arrive. T'sais, il fait toujours les mêmes fautes, puis il ne semble pas vraiment comprendre ce qui s'est passé. Puis ça peut être vraiment frustrant pour un parent. Et pour une éducatrice aussi, je peux vous le garantir. Le troisième signe que l'enfant a des difficultés adaptatives, c'est que l'enfant tombe systématiquement dans l'agressivité quand il va rencontrer des frustrations. Puis vous allez comprendre pourquoi dans les prochaines minutes. Mais avant ça, j'avais envie qu'on puisse comprendre ensemble comment donc on peut venir influencer, impacter cette résilience-là chez les enfants qu'on accompagne si, par exemple, là, ce que je viens de vous nommer vous parle. Voici donc la première question que je vous poserai. Quelle est votre propre relation avec vos émotions? Est-ce que toi, en tant que parent, tu as un malaise avec une émotion en particulier ou avec plusieurs d'entre elles? Quand tu as une émotion inconfortable, est-ce que tu rentres automatiquement en mode solution, un peu comme je décrivais tantôt, ou en mode évitement, hein? En prenant un petit verre, en écoutant un petit film, en binge-watchant? Il existe vraiment une tonne de manières, de façons d'éviter nos émotions, dont certaines stratégies plus subtiles, hein, comme ce qu'on va appeler le bypass cognitif. On va s'accrocher à une croyance, par exemple, qui fait du bien puis qui va nous éviter de ressentir ce qu'on n'a pas envie de ressentir. Par exemple, on souffre parce que notre partenaire nous a laissés. Fait qu'on s'accroche vite sur le fait que, de toute façon, cette personne-là n'était pas faite pour nous. Et ça va donc nous éviter de ressentir toute la souffrance qu'on a de perdre cette personne-là qu'on aimait autant. Ça pourrait aussi être à travers des scénarios un peu imaginaires, j'ai envie de dire, à travers des fantasmes. Par exemple, pour la même situation, là, je me mettrais vite à rêvasser à ma prochaine relation dans laquelle ben, mon nouveau partenaire, lui, il serait bien mieux que mon ex. Fait que je m'accroche à cette rêverie-là, à la vision de moi et mon nouvel amoureux. Puis ça va générer toutes sortes d'émotions dites confortables. Puis ça va évincer les plus inconfortables qui, elles, ont souvent été générées par quelque chose de bien plus réel puis de bien plus présent. Mais pourquoi c'est aussi important de ressentir ces émotions? Bien, quand on y pense, l'émotion, elle va nous donner une tonne d'indices sur nous-mêmes, en fait, sur nos valeurs, nos limites personnelles, sur ce qui est important pour nous, finalement. Et si on ne prend pas le temps de ressentir les émotions, bien, il est vraiment difficile d'avoir accès à la vérité d'une situation et donc d'en tirer des leçons adéquates pour cheminer puis apprendre à connaître ce qui nous correspond mieux dans la vie ou comment on aurait pu faire mieux. Une personne qui évite constamment ses émotions a plus de chances donc de refaire encore et encore les mêmes erreurs parce qu'elle n'aura pas profité de l'opportunité que cette situation-là lui offrait pour prendre en maturité. Parce que l'évitement de l'émotion va venir fermer notre être à la vérité. Tandis que la vulnérabilité, elle va nous ramollir, nous ouvrir. Notre être se laisse émouvoir par la réalité.
pense déjà que toute émotion est légitime. Donc, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions. Il n'y en a pas des négatifs, il n'y en a pas des positifs. Elles sont toutes légitimes, qu'elles viennent toutes à la suite de certains contextes et de certains événements. Je trouve que notre rôle en tant que parents, c'est plus outiller nos enfants à bien les identifier, à bien connaître et bien ressentir leurs émotions et comprendre pourquoi ils réagissent face à telle situation ou telle autre situation. Par cet accompagnement, mieux se connaître, mieux comprendre pourquoi on réagit face à tel événement ou tel autre événement.
Revenons maintenant à l'enfant. Si on essaye sans cesse de contourner les moments où l'enfant va vivre des émotions inconfortables, bien, il va finir par détecter par notre inconfort à nous en tant qu'adultes que la tristesse, la colère, la peur, ce sont des émotions à contourner et à éviter. Par exemple, quand je pleure, maman essuie mes larmes vite, 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 elle trouve toutes sortes de stratagèmes pour me faire rire, bien, je vais vite comprendre par le conditionnement que maman, ben, elle aime pas ça quand je suis triste. Puis en fait, l'enfant, ce qu'il va se dire très inconsciemment, c'est quand j'exprime ce que je vis de manière authentique, maman est inconfortable et elle tente de me changer. Ou encore, maman répond mieux à mes besoins quand je démontre des émotions dites positives. Par exemple, elle est calme et posée et plus disponible pour moi quand je suis heureux. Et le fait de ressentir des émotions dites négatives ne me donne pas autant accès à la chaleur de ma figure d'attachement primaire dont j'ai tellement besoin. Et quelle est la priorité absolue d'un enfant? L'authenticité ou la sécurité? C'est sa sécurité, bien entendu. Et cette sécurité-là, il va la trouver où? Au sein, donc, de sa relation d'attachement avec son parent. Alors, pour y avoir accès, il va réprimer l'émotion qu'il a d'abord détectée comme inconfortable pour maman. Et il y a énormément de variations à ça. Ça pourrait aussi être, par exemple, je me sens pas en sécurité de vivre mon émotion de colère avec mon papa parce que je vais finir par être isolée dans ma chambre en me faisant dire de me calmer ou je vais me faire crier dessus très fort ou mon parent va simplement m'ignorer. Pour garder mon lien chaleureux avec papa, pour protéger ma survie même, hein, parce que quand on est jeune, là, c'est une question de survie, la façon dont mon parent va agir avec moi. Mais pour protéger tout ça, je dois cesser d'être en colère. Ce sont des exemples un peu caricaturales, là, je vous l'accorde, mais je trouve que ça aide à comprendre un peu mieux le pattern. Alors oui, notre propre relation à nos émotions en tant qu'adulte, c'est un prédicteur direct de la relation que vont entretenir les enfants avec leurs émotions et donc ça influence directement leur capacité adaptative et leur résilience. OK, alors là, on a compris que notre propre relation à nos émotions puis notre capacité à la vulnérabilité en tant qu'adulte, c'est plus qu'important, c'est même fondamental et ressentir ses émotions, c'est absolument crucial pour pouvoir se développer. Mais comment, concrètement, le mécanisme émotionnel de résilience de l'humain va fonctionner? Donc, selon Neufeld, toujours, l'émotion la plus importante à ressentir quand il est question de résilience, ça va être la déception. Quand un enfant fait face à quelque chose qui ne lui convient pas, c'est pas de la colère qu'il va vivre. Souvent, on a cette impression-là. Mais l'enfant va plutôt vivre ce qu'on appelle de la frustration. Et pendant longtemps, je pensais vraiment que la colère et la frustration, c'était juste des synonymes. Mais c'est en fait deux émotions différentes. Parce que alors que la colère, elle, est générée par le cortex cérébral, la frustration, elle, est générée par le système limbique. Le système limbique, là, il est souvent considéré comme une partie un peu plus primitive du cerveau, par opposition au cortex cérébral qui, lui, est associé à des fonctions cognitives un peu plus avancées. Fait que la frustration, elle est considérée comme une émotion primaire, parce que tous les mammifères vont rencontrer cette émotion-là. Alors que la colère, elle, c'est une émotion plus complexe qui serait réservée aux humains. Alors, comment illustrer ce qu'un enfant va vivre quand il fait face à la frustration, à cette émotion primaire-là? Prenons par exemple un fiston qui veut lire une deuxième histoire avant de se coucher. Je suis sûre que ça ne vous est jamais arrivé. Donc, papa dit non une première fois. Et là, ben, fiston est vraiment très frustré de cela. Et ce qui va se passer, c'est que son petit système nerveux sympathique va commencer à s'emballer face à cette frustration-là et ça va générer une montée d'énergie dans le corps. Et là, l'enfant se retrouve à devoir gérer toute cette énergie-là dans son corps. Et il y a trois façons principales qui ont été identifiées par Gordon Neufeld pour évacuer cette énergie-là de frustration du corps de l'enfant, puis pour qu'il puisse revenir à son équilibre. La première façon qu'un enfant va réussir à se départir de son énergie de frustration, c'est qu'il va essayer de changer la situation. Fait que, si on reprend notre exemple, l'enfant sait que quand il supplie papa, puis qu'il se met à pleurer, papa, ben, il a vraiment de la difficulté à dire non. Alors, imaginons que papa choisit donc de lire une deuxième histoire à fiston, sous tant de pression. Ben hop, l'enfant va retrouver son calme, son équilibre et il va se réguler. Fait que dans les faits, tout est redevenu au calme, à la normale, mais tu sais, il n'y a pas eu grande mobilisation concernant la capacité adaptative de l'enfant.
Il y a certaines situations qui, oui, dans lesquelles ça serait, disons, judicieux d'éviter les frustrations ou tu sais, de faire ce qui est en notre pouvoir pour éviter les émotions inconfortables. Puis ça serait si nous, comme adultes, on n'est pas du tout disponibles. Si nous, on est dérégulés, on ne sera pas capable de les accompagner à vivre ce qu'ils ont à vivre avec empathie et bienveillance. Puis aussi, des fois, quand on manque de temps, quand, je sais pas moi, le temps est un grand enjeu puis qu'on a un avion à prendre dans 2 heures, ben là, on n'aura pas le temps. Ça prend du temps accompagner les enfants à vivre des émotions inconfortables, les adultes aussi d'ailleurs. Donc, ça serait deux, je pense, quand même, nuances que j'apporterais à ma réflexion.
Est-ce que c'est correct parfois de juste s'adapter puis de changer la situation? Bien, certainement. L'idée, là, c'est que ça ne devienne pas la seule et unique porte de sortie comme c'était le cas pour moi au début de ma carrière. Si on ne passe que par cette porte-là, c'est vrai que l'enfant va avoir moins de possibilités de venir mobiliser son petit système d'adaptation. Mais de toute façon, la vie s'en charge bien assez. Des frustrations, on en rencontre énormément dans une journée puis dans une vie.
J'essaie plutôt de ne pas être la source de frustration et de tristesse chez les enfants, mais ce n'est pas ma job d'éliminer celle que génère la vie. Ma job, c'est de soutenir et d'outiller l'enfant pour qu'il apprenne à les surmonter, à les gérer, à les reconnaître, à les confronter.
Et donc, si ce n'est pas possible justement de changer la situation, mais cette énergie-là, elle va quand même devoir être évacuée à quelque part. Et c'est là qu'on va se tourner vers la deuxième porte ou vers la deuxième façon de gérer cette énergie-là. Et c'est donc de ressentir son émotion d'impuissance face à la situation et à verser des larmes. Donc, Imaginons, cette fois-ci, que papa refuse de lire la deuxième histoire à son enfant, malgré toute la pression de fiston. Mais la deuxième façon de passer par-dessus la situation, ce serait de s'adapter à la situation et d'accepter le nom de papa. Et c'est là qu'entre en jeu une arme infaillible d'adaptabilité selon Neufeld, et ce sont les larmes. Alors, idéalement, le parent doit accompagner l'enfant à ressentir pleinement l'impuissance du non, la déception qui accompagne cette impossibilité de faire ce que l'enfant aurait souhaité et d'aider l'enfant à trouver ses larmes. Mais pas n'importe lesquelles. Hein? Les larmes là, qui sont accompagnées d'une espèce de résignation de la part de l'enfant, d'une espèce d'apaisement, de relâchement. Normalement, là, c'est vraiment à ce moment-là que le système nerveux va changer de vitesse puis va tomber en mode parasympathique. Donc, c'est facile à retenir. Les larmes, c'est notre arme de résilience. Notre émotion de tristesse, de déception va stimuler les glandes lacrymales par donc la partie parasympathique du système nerveux autonome. Puis dans les larmes émotionnelles, il y a une concentration plus importante d'hormones. La prolactine notamment, hein, qui est l'hormone qui, chez la femme, va stimuler la production de lait. Puis la leucine encéphalique qui va agir sur la douleur. On va aussi trouver des toxines associées au stress puis des antalgiques. Ça reste que la composition des larmes émotionnelles est plutôt mystérieuse, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on sent mieux après avoir pleuré. Le philosophe Francis Métivier parlait de l'expression « pleurer liquide ». Il disait que parfois, il y a quelque chose en nous de dur qui arrive comme pas à sortir. Puis pleurer, c'est le signe que la chose se liquéfie, qu'elle se soulage. Donc, en pleurant, on se débarrasse d'une douleur. Un parent qui va être à l'aise avec sa vulnérabilité, avec la vulnérabilité, a moins peur de dire non, a moins peur d'être alpha, hein, si je fais des ponts avec les épisodes précédents. Fait que d'abord, il va être en confiance, il va être posé. Il ne cherchera pas à changer l'émotion de l'enfant parce que l'émotion de l'enfant, ça ne fait pas peur. Il va laisser les larmes couler sans les essuyer, mais il ne va surtout pas oublier l'aspect bienveillant hein, qui vient avec le alpha. Fait que l'idée, c'est d'offrir un contenant sécuritaire à l'enfant afin qu'il puisse vivre cette émotion-là dans le contexte de la sécurité puis de la chaleur de la relation d'attachement. Donc, on reste présent à l'enfant, on valide son émotion au besoin. Parfois, on reste simplement en silence en prenant l'enfant dans nos bras. Puis c'est vraiment notre instinct d'éducateur qui va nous indiquer quoi faire. Et donc, l'enfant ressent son émotion, puis il peut gagner en maturité, en résilience, de jour en jour. Puis ça peut vraiment initier de magnifiques discussions avec les enfants. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'enfant n'a pas cette figure d'attachement sécuritaire-là ou que son parent a fait son mieux mais qu'il n'est pas vraiment à l'aise avec la vulnérabilité? Bien, l'enfant va utiliser la troisième porte de sortie, c'est la porte de l'agressivité. Alors dans ce cas-ci, bien, fiston demande à papa de lire une deuxième histoire. Papa refuse de lire l'histoire d'un ton ferme cette fois-ci puis sans chaleur. Il va même quitter la pièce. Puis bien, en plus, pour grossir la caricature, on va imaginer que le parent n'est pas vraiment à l'aise avec la vulnérabilité. Fait que l'enfant n'a pas de contexte sécuritaire pour aller vers la porte de la vulnérabilité, hein, la deuxième porte. Fait que son énergie de frustration va se tourner vers la troisième porte pour évacuer toute cette énergie-là en agressivité. Une énergie d'attaque va monter. Fait que là, l'enfant, ben, il peut hein, saccager sa chambre, déchirer peut-être les pages du livre, crier, insulter ses parents. On dirait que je viens de me voir quand je suis jeune puis que je perds un jeu puis que je saccage le jeu de société par terre. Ça va vraiment dépendre de la personnalité de l'enfant puis de son stade de développement, la façon dont cette agressivité-là va s'exprimer. Alors, le rôle du parent, c'est vraiment d'aider l'enfant à passer de la porte 3, la porte de l'agressivité, à la porte 2, la porte de la vulnérabilité. De la porte de l'agressivité à celle de la tristesse, de la déception, de l'impuissance. Hein? Il y a de toutes ces couleurs-là à travers la deuxième porte. Alors, comment ça pourrait se manifester? Bien, on va aider l'enfant en restant présent pendant sa crise, en étant calme, en étant posé. Moi, je dirais que ça, c'est le plus important. Être présent, calme, posé. On montre à l'enfant qu'il n'y a rien de tout ça qui nous fait peur. Et souvent, si on sent qu'on doit parler à l'enfant, on va prendre une voix qui amène à l'introspection, à l'intériorisation. Puis souvent, on va avoir l'intuition de commencer à donner de l'empathie à l'enfant, à valider ce qu'il est en train de vivre. Ah, ça, c'est vraiment frustrant pour toi de ne pas pouvoir lire la deuxième histoire. Puis tu sais quoi, je comprends, parce que moi aussi, là, quand j'avais ton âge, je voulais lire une deuxième histoire avec papa parce que je savais que ça faisait en sorte que papa restait plus longtemps avec moi avant le dodo. Puis j'avais vraiment peur quand il partait. Est-ce que ça se peut que toi aussi, ça soit ça? T'as peur que je m'en aille? Oui! Souvent, là, il y a comme une espèce de switch à cet endroit-là. Là. Comme quand on réussit à vraiment mettre le doigt sur ce qui a déclenché l'enfant, puis qu'on l'amène doucement vers son cœur, bien là, à un moment donné, il y a comme un changement de vitesse. Hein? Les pleurs sont plus les mêmes. Ça devient plus mou. Puis parfois, c'est le call pour mettre notre bras autour de l'enfant qui était super agité avant, puis qui était comme « lâche-moi, approche-moi pas ». Puis là, c'est comme « oh, là, tout à coup, on peut mettre un bras, là. On peut avoir une proximité, puis l'enfant va même rechercher cette proximité-là. » Puis on sait qu'on a atteint là, ce point d'impuissance-là quand l'enfant devient sans défense, quand l'enfant n'est plus en mode explosion. Et c'est là qu'on va devenir un contenant. Puis quand un enfant passe d'une crise d'agressivité à une crise de larmes, bien, on sait qu'on peut être fier de nous parce que c'est comme ça qu'on sait qu'on était en mesure d'offrir un contenant sécuritaire à l'enfant et donc de cultiver par le fait même sa résilience. En dessous de cette crise d'agressivité-là, il y a toujours une déception profonde, une impuissance, une tristesse ou quelque chose entre les trois concepts. Quand c'est possible, on peut la changer la situation, on peut passer par la porte 1. Le but, c'est pas de dire « je veux que mon enfant soit résilient, fait que je dois le confronter au plus de frustration possible ». Il y a peut-être une situation de cas où je sens que c'est judicieux de créer des frustrations, et ce serait un enfant qui stagne vraiment trop dans la porte 3 de l'agressivité, puis qui refuse systématiquement le non. Puis là, je pense à une histoire que j'ai en tête. Une petite fille de 7 ans qui est dans mon groupe, puis elle, c'est la porte 3, assurément, quand elle ne peut pas changer une situation frustrante. Et la situation que j'ai en tête, c'est qu'à un moment donné, elle avait laissé traîner sa corde à sauter sur la cour de récréation. Bien entendu, ben, tu sors un jouet, tu vas le ranger après. Il restait très peu de gens au service de garde. J'aurais pu, sachant que c'est le genre de choses qui la frustrent énormément, prendre la corde à sauter puis la mettre dans le bac qui était à côté de moi. Puis c'est correct parfois d'être flexible, d'analyser un peu la situation. Mais cette fois-là, je sentais qu'un peu de rigidité, ça allait être bénéfique. J'ai insisté en pleine conscience que j'allais générer probablement une crise de frustration. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai le temps, il n'y a presque personne, j'ai l'espace de l'accompagner là-dedans, let's go. Je vous jure, ça a été long, hein? 20 minutes. 20 minutes. Elle a fini par aller porter la corde, à pleurer dans mes bras. Mais ça nous a vraiment rapprochés. J'ai compris qu'elle était très fatiguée, que c'était pas facile pour elle parce qu'elle avait beaucoup d'activités parascolaires le soir, puis elle a de la difficulté à dormir la nuit parce qu'elle a peur de dormir seule, puis elle s'est confiée à moi, puis ça nous a vraiment rapprochés. Si je m'étais laissée intimider par la crise d'agressivité puis de frustration, jamais j'aurais pu accéder à ce joyau-là. J'y ai fait sentir que je l'aimais pleinement malgré ça, que c'était tout à fait naturel puis normal d'être frustrée. Je le répète, le but de l'épisode, c'est pas de créer un nouveau dogme et de dire qu'on doit réussir à accueillir toutes les frustrations des enfants. La vie, c'est complexe. L'idée ici, hein, c'est de dire que si je contourne constamment ces frustrations-là, ben, il faudrait que je commence à me poser la question, qu'est-ce que ça va créer chez l'enfant que j'accompagne? Quel impact ça va avoir sur l'adulte aussi qui va devenir, puis sur la dynamique familiale ou la dynamique à l'école? C'est de plus en plus évident pour moi que quand on accompagne les enfants, la plus grande justesse réside dans le fait de prendre soin d'abord de son enfant intérieur, puis de devenir un modèle cohérent. Hein, c'est vraiment une énorme partie de la job d'être en lien avec soi, avec ce qu'on incarne. Ça prend du temps, de l'énergie, puis du courage de s'observer. Moi, je vous salue si vous priorisez ça dans votre vie, d'entrer en contact avec votre monde intérieur. Moi, parfois, j'ai l'impression de rien faire. Je suis couchée sur mon lit, puis j'observe qu'est-ce qui est vivant pour moi, puis des fois, je me sens mal, je me sens coupable de faire ça, parce que j'ai l'impression de ne pas être productive, mais en bout de ligne, je pense vraiment que ça fait de moi une meilleure éducatrice. Les émergents, c'est votre émission, produite et présentée par moi-même, Elisabeth Dufresne. Notre musique originale est signée Étienne Dufresne et l'illustration de couverture est l'œuvre de la talentueuse Florence Rivet. Je tiens à te remercier du fond du cœur pour être restée jusqu'au bout de cet épisode-là. Et si t'as apprécié, n'hésite pas à me montrer ton soutien en m'envoyant une poignée d'étoiles via Apple Podcasts. Partagez cet épisode-là dans tes stories en me taguant Elisabeth.Dufresne. C'est vraiment une bonne façon de me dire que mes paroles comptent et que tu es là pour les écouter. Tu peux aussi partager les différents extraits que j'ai mis sur les réseaux sociaux en forme de Reel. Et nous, ben, on se retrouve dans 2 semaines pour la 3e composante du nid évolué de Darshan Arvaez qui est l'allaitement à la demande, qui sera avec la grande... Ah! J'ai pas envie de vous le dire, en fait. Revenez donc dans 2 semaines pour le savoir.